que nous connaissons relativement bien. Et donc, on a l'impression que ces deux éléments de légitimation fonctionnent relativement bien aujourd'hui, et donc il n'y a pas des menaces immédiates sur le régime.
Alors revenons à la relation Amérique-Chine. Faites-nous écouter quelqu'un, Claude.
Donald Trump, qui parlait devant l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était le 24 septembre. Entendez-le expliquer sa conception des rapports avec la Chine.
La deuxième plus grande économie du monde ne devrait pas se considérer comme un pays en développement pour profiter du système aux dépens des autres. Pendant des années, ces abus ont été tolérés, ignorés ou même encouragés. La mondialisation a eu un attrait religieux pour les dirigeants du passé, les poussant à ignorer leurs propres intérêts nationaux.
Julian Lee, le discours de la Chine est que nous faisons tous partie d'un grand monde qui doit se développer harmonieusement. Quand on entend Donald Trump, est-ce qu'en réalité, le monde sera séparé entre ceux qui feront du commerce et seront les alliés ou les obligés de la Chine et ceux qui suivront les États-Unis ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est devenue très complexe, en fait, entre, je dirais, un pays du futur, la Chine et l'ancienne puissance.
Et l'Amérique, c'est un pays du passé, selon
non,
vous?
Je veux dire en cours. Je parle du futur et le présent. Uh-huh. Donc, par exemple, pour l'Europe, on doit faire un choix en fait, entre les deux.
Ah, l'Europe doit décider de s'agréger ou non au pôle du futur.
Voilà, comment travailler avec les deux, en fait, ouais. Finalement.
Mais est-ce qu'il sera possible de travailler avec les deux sur des dossiers très techniques comme la 5G? Est-ce qu'à un moment donné, ce qui se passe avec Huawei, est-ce qu'il n'y aura pas de séparation réelle, physique, comme il y avait une séparation de blocs au temps de l'Union soviétique?
Je pense qu'il y a certainement certaines séparations, par exemple, dans le secteur digital. On constate qu'il y a deux systèmes digitaux qui fonctionnent différemment en Chine et aux États-Unis, en Europe aussi. Mais par contre, je pense aussi qu'il serait tout à fait possible de trouver des accords, de trouver des intérêts communs. Mais ça dépend beaucoup de la volonté de chacun et des méthodes de travail aussi. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les différentes économies sont de plus en plus interconnectées. Mm-hmm. Donc, il est impossible de dire qu'il y a une partie qui va gagner et l'autre va perdre. C'est à chacun, c'est à chaque partie de s'asseoir tranquillement et de discuter avec d'autres parties et de trouver une solution.
Alors, voilà. On aimerait que ce soit si simple. Mmh. On aimerait que ce soit si simple. Et on a démontré dans notre ouvrage avec Emmanuel Dubois de Prisque précisément que c'était très complexe parce que les Chinois, au final, nous mettent devant la situation d'avoir ou pas à choisir et d'adopter certaines pratiques. Je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière à Pékin, nous discutions avec des entreprises françaises. Ces entreprises nous disaient qu'elles étaient obligées, si elles voulaient faire des affaires en Chine, d'admettre certaines pratiques chinoises et certains faits qui sont pourtant, par exemple, le respect des droits, des libertés, la question de Taïwan. Plusieurs entreprises nous ont dit, on ne discute même plus maintenant, on écrit Taïwan-Chine, alors même qu'ils font des affaires à Taïwan, mais simplement on ne veut pas de problèmes. Donc, en fait, la question là est une question sur la question de Taïwan, mais sur la question finalement du respect des droits de l'homme ou du contrôle social, il va y avoir un moment où on va être vraiment au pied du mur.
Pierre Gonsert, vous dites qu'il est possible que les Chinois privilégient un système alternatif au système libre-échangiste et libéral dont ils profitent à l'heure actuelle, mais lequel serait-il?
Non, ils profitent de ce système, mais la question qui se pose, c'est qui est-ce qui dirige la régulation de ce système. Mmh. Et on le voit par exemple sur les fameuses routes de la soie où il y a des systèmes d'arbitrage qui sont en train de se mettre, qui sont des systèmes d'arbitrage quand même, j'allais dire, à la chinoise. Donc là, on est dans l'alternatif. Mais ce qui est aussi une grande question sur justement l'avenir des relations entre la Chine et les États-Unis. Je rappelle quand même aux spectateurs que c'est le 1er octobre 2049 qui va être la grande date pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est que aussi dans les institutions qu'on pense être les institutions traditionnelles d'internationalisme libéral, comme par exemple les Nations Unies, mm-hmm. les Chinois ont de plus en plus d'influence à la fois sur le vocabulaire qui est employé, sur les textes qui sont votés, et aussi par exemple sur les opérations de maintien de la paix, à la fois dans le financement et dans le nombre de casques bleus sur le terrain.
C'est le mot de la fin pour...